Bonjour à chacun. Je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi. La santé allant de mieux en mieux, eh bien je pense que je pourrais vous rejoindre très souvent maintenant le dimanche après-midi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous avons vu ce matin combien l'apostasie était entrée dans l'Église. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Il y a une petite de 10 ans qui ce matin venait pour la première fois, 10 ans, pour la première fois, qui m'a posé plusieurs questions sur l'apostasie. J'étais émerveillé de voir combien des enfants peuvent s'intéresser à la parole du Seigneur. Et plusieurs remarques de frères et sœurs voyageant m'ont expliqué par rapport à ce qu'ils avaient vu, combien il est important que nous restions vigilants par rapport à l'enseignement biblique et que nous soyons assidus à la pensée du Seigneur. Comme je l'ai dit il y a quelques semaines, vous vous rappelez quand Saül a été rejeté parce qu'il n'avait pas obéi à Dieu, il y avait le pasteur qui s'appelait Samuel. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il faisait à cause de ce qu'il a vu ? Il pleurait. Et pourtant c'était le prophète Samuel, il pleurait et Dieu lui a dit « Jusqu'à quand pleureras-tu ? » Je l'ai rejeté, Saül, mais ne t'inquiète pas, j'ai prévu autre chose. Et de tout temps, Dieu a toujours prévu ce qu'il devait faire pour bénir son œuvre. Quand vous lisez le livre des juges, je vous encourage à venir avec moi dans le livre des juges. Quand vous lisez le livre des juges, vous êtes étonné de voir tout ce qui s'est passé et comment Dieu a réglé les problèmes. C'est important de savoir que Dieu est capable de régler tous les problèmes. Alors, c'est très étonnant, on va lire quelques versets qui nous font réfléchir. Par exemple, dans Juges au chapitre 3, et au verset, on va lire verset 7. Juges chapitre 3, verset 7. Le livre des juges. C'est une époque particulière. Notre époque y ressemble beaucoup d'ailleurs, puisqu'il est dit dans ce livre que c'était une époque où les gens faisaient ce qui leur semblait bon. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Regardez, Juges chapitre 3, verset 7. « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. » Regardez le verset 8. « La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et les vendit entre les mains de Cusham Rishathaïm, roi de Mésopotamie. Les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cusham Rishathaïm. » Il s'est levé un juge. Plus tard, au verset 12, « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Eglon. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Dieu qui fortifie les ennemis d'Israël. « Roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. » Verset 14, « Et les enfants d'Israël firent asservis, combien de temps ? 18 ans à Eglon, roi de Moab. » On peut prendre plusieurs textes, regardez au chapitre 6. On l'a vu mardi dernier, pour ceux qui étaient là, Gédéon. Voilà, ça a duré 7 ans. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Nous allons lire un texte où ça a duré un petit peu plus longtemps, dans le livre des Juges, au chapitre 13. Regardez, vous savez, il y a des épreuves plus longues les unes que les autres. Est-ce que vous le savez ? Il y a des épreuves qui peuvent durer longtemps. Regardez combien de temps ça a duré. Juges, chapitre 13, verset 1er. « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. » Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Est-ce que vous vous rendez compte ? Pendant 40 ans. Et nous ne comprenons pas toujours pourquoi certaines épreuves durent plus longtemps que d'autres. Je crois que Dieu voit les hommes ou les femmes qu'il peut utiliser, qu'il peut lever pour arrêter ces drames. Alors on va lire l'histoire des parents de Samson. Vous les connaissez, les parents de Samson ? Vous les connaissez ? Alors on connaît le nom du papa. Il s'appelle Manoac. Verset 2. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoac. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as pas d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. » Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, « Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. » Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Manoac fit cette prière à l'Éternel.
Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exauça la prière de Manoac et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoac, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit « Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoac se leva, suivit la femme, alla vers l'homme et lui dit « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit « C'est moi. » Manoac dit « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant ? Qu'y aura-t-il à faire ?» L'ange de l'Éternel répondit à Manoac « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin, ni liqueur forte, elle devra et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoac dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoac, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux offrir un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoac ne savait pas que c'était un ange de l'Éternel. Et Manoac dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira ?» L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. » Vous avez compris à qui ils avaient affaire. Manoac prit le chevreau et l'offrande. Il fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoac et sa femme regardaient. Comme la flamme montait et de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoac et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoac et à sa femme. Alors Manoac comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, « Nous allons mourir car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande, et il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas fait entendre maintenant chose pareille. » La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Amen. Voilà comment est arrivé le ministère de Samson qui a tant fait parler de lui. Il a certainement fait beaucoup de choses pour Dieu, mais également il a été très charnel, ce qui lui a valu de gros soucis. Nous avons là la preuve que quelle que soit la durée des épreuves, quelle que soit la durée de l'apostasie, quelle que soit la durée de l'éloignement de Dieu, quelle que soit la durée de la désobéissance, Dieu peut trouver des hommes, des familles, une église capable d'amener la bénédiction sur les autres. Ça ne devait pas être facile parce qu'en plus, il nous est dit que cette femme était stérile. Quand vous regardez dans les livres d'avant, la stérilité était considérée comme quoi ? Comme quoi c'était considéré ? Oui, comme une malédiction. Parce que la femme, Dieu disait que la femme qui n'enfantait pas était pas bénie. Alors je vous dis pas le regard des gens sur cette femme, sur cette famille, s'ils n'ont pas d'enfants, eh bien c'est parce qu'ils ont peut-être fait quelque chose qui n'était pas bien, etc., etc. On le voit souvent, et pourtant dans la Bible, on a affaire plusieurs fois à cette histoire. Regardez Élisabeth et Zacharie, qui ont enfanté Jean-Baptiste. C'était des gens qui étaient intègres et droits. Et pourtant, Dieu avait permis cette épreuve, ils n'avaient pas d'enfants. Ce n'est pas parce qu'on traverse une épreuve qu'on n'obéit pas à Dieu, et vice-versa. Donc, ce couple, on pourrait prendre d'autres exemples d'hommes, de femmes, de couples qui n'ont pas eu d'enfants. Pourquoi ? Eh bien parce que Dieu, dans sa souveraineté, l'avait permis ainsi. Ce n'est pas parce que nous traversons l'épreuve que nous ne devons pas obéir à Dieu. Ce couple a été choisi parce que malgré l'épreuve, malgré le fait qu'ils n'étaient pas bénis, malgré le fait que les autres devaient peut-être les regarder avec mépris, eux, ils avaient quand même choisi d'obéir à Dieu. Comme nous, cet après-midi, nous avons fait le choix de venir dans sa maison. Donc, nous avons une histoire qui est là, ça fait 40 ans que ça dure. Vous avez remarqué que Dieu est capable même de fortifier les ennemis d'Israël. Moi, quand j'ai lu le livre des Juges pour la première fois, je me suis dit, mais c'est pas possible. Vous savez, Dieu est souverain. Nous, on est là. Pourquoi Dieu permet ci ? Pourquoi il se passe ça ? Laissez-moi vous dire que quand une église obéit à Dieu, Dieu peut renverser les choses. Ce que Dieu cherche, c'est un homme, une femme, je le répète, une famille, une église qui va obéir à Dieu et cela va amener la bénédiction sur le royaume de Dieu. Donc, nous voyons un ange qui vient et qui dit à une femme, voilà, tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils, tu donneras le nom de Samson. Et voilà ce que tu feras, tu ne boiras ni vin, ni liqueur forte. Tiens donc. Est-ce que c'est valable aujourd'hui, ça? Tiens donc.
Est-ce que c'est valable? Est-ce qu'on peut boire du vin et des liqueurs fortes? Est-ce que c'est un aliment qui nous approche de Dieu? Alors, on va prendre la question autrement. La Bible dit que ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu, que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Mais, dans ce contexte, dans l'Ancien Testament, le vin, bien sûr, que, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il vaut mieux être très sobre, la Bible le dit. Mais le vin représente, et les liqueurs fortes représentent, les joies du monde. Et je crois que quand on veut plaire à Dieu, on ne cherche pas la joie dans le monde. Quand on veut plaire à Dieu, on cherche la joie dans la présence de Dieu. Vous le croyez? Moi, je le crois vraiment. Quelqu'un qui aime Dieu, il trouve sa joie dans la présence du Seigneur. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, ça veut dire ne cherche pas la joie dans les choses du monde. Ce matin, je me permets de le dire, même si c'est moi qui ai donné la prophétie, cette parole qui s'adressait à quelqu'un qui est dans une souffrance, qui est insatisfait, Dieu est en train de le vider justement de toutes ces choses de la terre pour pouvoir le remplir de la joie du Seigneur, de la vraie présence de Dieu. Vous savez, il y a des épreuves qui sont en vérité des bénédictions. Nous, on ne comprend pas, mais c'est vrai que ce matin, j'ai reçu cette pensée pour quelqu'un qui est en train d'être vidé et qui souffre, qui est malheureux, qui a envie de mourir même parfois. Et pourtant, Dieu est en train de le vider des choses de la terre pour pouvoir le remplir de choses spirituelles. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans le cœur de Manoac, dans le cœur de cette femme, il y avait quelque chose, il y avait une véritable foi. Et c'est ça que Dieu attend de nous, qu'il y ait une véritable foi. À quoi reconnaît-on qu'il y avait une véritable foi? Par exemple, au verset 12, quel est le souci de Manoac? Bien sûr, Manoac, il ne comprend pas comment ça se fait, un homme qui était voir ma femme, et qu'est-ce qui se passe, etc. Il a le souci, donc il fait la prière, « Seigneur, envoie cet homme de Dieu que tu as envoyé vers ma femme. » Dieu va exaucer sa prière. Vous savez, Dieu va exaucer certaines prières. Est-ce que Dieu exauce vos prières? Peut-être que Dieu n'exauce pas vos prières depuis quelque temps. Ça vaut la peine peut-être de réfléchir et de dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait obstacle à mes prières? Ça vaut la peine d'y réfléchir. Mais regardez le comportement. Au verset 8 d'abord, « Que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, qu'est-ce qu'il dit? Et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Il y a dans le cœur de Manoac le souci de savoir, mais qu'est-ce qu'il faudra faire? Il ne dit pas, on verra, écoute, chérie, on verra si c'est vrai. Si c'est vrai, on verra, et une fois que le petit sera là, on verra. Non, il a le souci, mais qu'est-ce qu'il faudra faire? Vous voyez, de suite, il a ce souci. Est-ce que c'est notre souci? Parce qu'on peut dire, oui, Seigneur, j'aimerais que tu fasses ceci, j'aimerais que tu fasses cela. Mais est-ce qu'on est capable d'obéir avant que ces choses ne se produisent? Avant que Dieu ne le fasse? Vous avez vu, que devrons-nous faire pour l'enfant qui naîtra? Au verset 12, « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Qu'y aura-t-il à faire ?» Et nous voyons l'obéissance. On se demande pourquoi Dieu a choisi Manoac, pourquoi Dieu a choisi David, pourquoi Dieu a choisi Gédéon, pourquoi Dieu a choisi Moïse à 80 ans, etc., etc., etc. Oui, parce que Dieu savait que ces hommes et que ces femmes obéiraient. Et cet après-midi, Dieu nous voit. On est dans l'église, c'est une chose. On prend le pain et le vin, c'est une chose. On chante des beaux cantiques, c'est une chose. Mais laissez-moi vous dire que ça n'est une autre, d'obéir à Dieu. Et moi, j'aime beaucoup les écrits de Washbani, parce que lorsqu'il parle de la vie de l'esprit, il n'arrête pas de dire, mais un homme rempli du Saint-Esprit, c'est un homme qui est rempli d'obéissance. J'aime beaucoup cette parole, parce qu'elle elle exprime en une phrase ce que Dieu attend de nous. Tout est basé sur une véritable obéissance. Que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et peut-être Dieu veut vous parler cet après-midi et vous dire, mais c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je te prie pour que mon mari se convertisse, je te prie pour que mes enfants se convertissent, je te prie pour qu'il y ait un réveil. Mais le Seigneur peut vous dire, mais si un réveil, il va falloir t'occuper peut-être de 20 personnes dans l'église. Est-ce qu'on est prêt à s'occuper de 20 personnes? S'il y a une action particulière du Saint-Esprit, cela va nécessiter que je fasse certaines choses, oui ou non, ou c'est le pasteur qui doit tout faire? Moi, je crois que l'on peut comprendre pourquoi Dieu a exaucé Manoac, même s'il s'adressait d'abord à sa femme. Vous savez, Dieu est souverain, il parle à qui il veut, il agit comme il veut, mais une chose est certaine,
Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il y aura à faire? En attendant que l'enfant naisse, qu'est-ce qu'il faut faire? On voit qu'il y a dans cet homme une vraie foi. On le voit ailleurs d'ailleurs. Vous voyez, quand il dit, mais au verset 17, regardez bien, c'est important de méditer la Bible. Souvent, moi, je dis aux gens, mais méditez la Bible. Vous ne comprendrez pas les choses de Dieu si vous ne méditez pas. Regardez au verset 17. Quel est ton nom? Pourquoi? Afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. Il a la foi. Il n'y a pas que l'obéissance. L'obéissance, c'est extraordinaire. Mais il a la foi. Il prend la promesse de Dieu au sérieux. Il prend la parole de Dieu au sérieux. Et c'est la question que je vous pose cet après-midi. Est-ce que nous prenons la parole de Dieu au sérieux? Dieu l'a écrit. Combien de gens disent, oui, d'accord, Dieu l'a dit. Dieu l'a dit, veillez, priez. Mais enfin, si on ne le fait pas, ça ne va pas non plus. Ça ne va pas changer grand-chose. Oui, et si. Parce que ceux qui ne veillent pas et ceux qui ne prient pas ne seront pas prêts lorsque Jésus reviendra nous chercher. Quel est ton nom? Que nous te rendions gloire. Voyez le souci d'être reconnaissant, le souci d'adorer Dieu, le souci d'avoir une véritable foi. Ça devrait nous préoccuper, Seigneur. Tu l'as dit, c'est sérieux. Vous croyez tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Ou vous dites, comme de plus en plus on l'entend, la parole de Dieu ou la Bible est dans la parole de Dieu. Ou la parole de Dieu est dans la Bible. Vous avez compris la différence? On l'entend de plus en plus. Comme ça, on prend ce qu'on veut de la Bible. La parole de Dieu, elle est dans la Bible. Mais ce n'est pas vrai, ça. La parole de Dieu, elle n'est pas dans la Bible. La parole de Dieu, c'est toute la Bible. Et si je commence à dire, oui, certains passages de la parole de Dieu, de la Bible, ne sont pas la parole de Dieu, eh bien, je fais ce que je veux de la parole de Dieu. Manoah, il a dit, quel est ton nom? À qui j'ai affaire? Ben oui, quand on est dans une église, quand on est là, quand on est autour de la parole, à qui avons-nous affaire? Il y a des gens qui disent, oui, moi j'étais à l'église évangélique, c'était intéressant. Moi j'étais dans telle église, ah, c'était bien, c'était... Oh, j'étais dans une église, c'était magnifique, il y avait un décorum, c'était super, c'était beau. Voilà, le problème n'est pas là. Le problème, il est à qui on a affaire? On a affaire au Seigneur. Dis-moi quel est ton nom. En plus, l'ange de l'Éternel, c'est ce qu'on appelle une christophanie, puisque vous avez compris qu'on a affaire à Jésus-Christ lui-même. Une apparition de Dieu en Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre. Vous savez que Jésus-Christ est Dieu, vous le savez? Vous le croyez, ça? Eh oui, c'est écrit. Mon nom, il est merveilleux. Qui sait que Esaïe a dit on l'appellera merveilleux? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Ce n'est pas un ange qui s'appelle merveilleux, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui, avant son incarnation, était Dieu et est Dieu et est apparu à Gédéon pour faire à Manoah et à sa femme pour que l'œuvre de Dieu puisse se faire. Quel est ton nom? Que nous te rendions gloire. Nos cultes d'adoration, on se bute là, de dire Seigneur, moi je veux te rendre gloire. Ah, moi je ne prie plus, dira quelqu'un. Je ne prie plus, je traverse une épreuve, je ne prie plus. Vous croyez que c'est bien? Il y en a des gens comme ça. Il y a des gens qui devraient être là cet après-midi, ils n'y sont pas, pour la simple et unique raison que dans l'épreuve, eh bien, ils ont arrêté de prier. Dans l'épreuve, ils n'en parlent pas de louer, mais ils ont arrêté de prier. Moi, je peux vous dire que dans l'épreuve et en tout temps, vous pouvez bénir le Seigneur, l'adorer et le glorifier. Car Dieu voyait David, souvent on parle de David, parce qu'il est dit, j'ai vu un homme selon mon cœur, j'ai vu David, je l'ai trouvé, etc. J'ai trouvé un homme, mais Dieu n'a pas trouvé que David. Dieu a trouvé ce couple, Dieu a trouvé d'autres hommes et d'autres femmes dans la Bible pour pouvoir faire son œuvre. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé, même si les épreuves durent depuis 8 ans, ou depuis 7 ans, ou depuis 15 ans, ou 20 ans, ou 40 ans, ou plus, Dieu cherche des églises par lesquelles il pourra manifester sa présence, comme on l'a vu ce matin, des églises où on n'aura pas chassé Jésus, parce que moi, je vous dis, toute la semaine, j'ai préparé mon étude là, sur l'apostasie, j'ai mis toute la semaine, et j'étais malheureux de voir qu'on avait réussi, enfin une église avait réussi à mettre Jésus dehors. Voici, je me tiens à la porte. Voilà ce qui se passe lorsqu'on n'honore pas la saine doctrine, eh bien, on finit par mettre Jésus dehors. Et si nous ne voyons pas la gloire de Dieu comme Dieu voudrait nous la manifester, c'est pour la simple et unique raison qu'on n'a pas honoré la saine doctrine. Mais à partir du moment où on reproduit le comportement de Manoah, le comportement de sa femme, tiens, ah bon, Dieu demande de ne pas boire de vin, de liqueur forte, j'ai compris, c'est pas un aliment qui me rapproche de Dieu, mais quand même, la sainteté, la consécration, action fera que je pourrai m'approcher de Dieu. La sainteté, la consécration, l'obéissance feront que je pourrai amener la vie de l'Esprit dans mon cœur. Vous avez envie d'amener la vie de l'Esprit sur les autres ? Eh bien, imitons la foi de ces hommes et de ces femmes. Oui, quel est ton nom ? Que nous te rendions gloire. Au verset 14, il y a cette image de la sainteté. Et je pense que c'est important de se dire, mais puisqu'il est dit, elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin, ni liqueur forte, elle mangera rien d'impur, elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Ça vaut la peine de dire, je ne veux rien manger d'impur. Alors c'est quoi la nourriture ? Mais avec tout ce que je mange, il y a des colorants, il y a des conservateurs. Oui. Alors la nourriture qu'on achète aujourd'hui, c'est clair qu'elle est, elle est un peu souillée. Mais là, c'est par rapport aux choses spirituelles. Tout ce qui rentre par les oreilles ou par les yeux, c'est de la nourriture. Oui ou non ? Et laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont souillées. Et je pense que Dieu n'utilisera pas une église ou des hommes et des femmes qui se souillent. J'aime beaucoup les témoignages de Daniel. On peut y aller, s'il vous plaît. Juste après Ézéchiel, juste après les grands prophètes, il y a les petits prophètes. Dans le livre de Daniel, vous êtes étonnés. Daniel est devenu un chef d'État. Oui, un chef d'État, on peut le dire. Daniel, au chapitre 1er et au verset 8, alors qu'on a tout fait pour changer même sa personnalité, vous savez, le diable, il fait tout pour nous détruire. Et même, on avait changé les noms de ces hommes qui avaient été amenés en captivité. On avait changé leur nom pour essayer de détruire leur identité. Bon, ça n'a pas marché, bien sûr, parce qu'ils étaient avec Dieu. Mais regardez, Daniel, chapitre 1er, verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques à ne pas l'obliger à se souiller. Le verset 9, ce n'est pas étonnant. Qu'est-ce qui est écrit ? Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Il prend la résolution de ne pas se souiller par la nourriture qui avait été offerte à des idoles, et je crois que nous devrions réfléchir à deux fois avant de regarder certaines choses à la télé. Parce qu'il y a des choses qui sont souillées. J'espère que vous n'allez pas me traiter de fanatique et de légaliste, parce que bon, c'est bon, j'ai l'habitude. Mais quand même, je pense qu'on devrait y réfléchir à deux fois. Il y a vraiment des choses qui sont souillées. Et ces choses-là n'amènent pas la bénédiction sur notre esprit. Au contraire, elles nous éloignent de Dieu. On se demande pourquoi certains hommes ont obtenu la faveur de Dieu. Daniel a trouvé la faveur et la bénédiction du Seigneur parce qu'il a pris la résolution de ne pas se souiller. Mes frères et sœurs, si nous prenons la résolution de ne pas nous souiller, le Seigneur nous accordera sa faveur. Si vous voulez être utile, vous savez, moi, j'ai entendu un jour, je crois dans une prédication, un pasteur qui disait, notre vie, mais j'ai trouvé l'image excellente, notre vie, c'est comme un billet de banque. Vous pouvez dépenser comme vous voulez, mais vous pouvez le dépenser qu'une fois. Et c'est vrai, un billet, si je vous donne un billet de 100 euros, ne vous inquiétez pas. Mais imaginez que je vous donne un billet de 100 euros. Vous pouvez le gaspiller comme vous voulez. Et notre vie, c'est comme un billet. On peut la gaspiller comme on veut. On peut en faire ce qu'on veut de notre vie, oui ou non ? C'est pas notre frère Michael, prenez l'exemple, voyez, de ce possédé qui, malgré son épreuve, s'est approché de Jésus. Oui, il a choisi à un moment donné de dire, non, ça ne va pas, il faut que je m'en sorte. Et Judas, qui a eu pendant 3 ans et demi la possibilité d'être délivré de l'amour de l'argent, eh bien, voyez, il s'est pendu, il s'est suicidé. Vous voyez, il est passé à côté. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas prendre de résolutions. Et je crois que quand on écoute la parole de Dieu, ça devrait nous aider à prendre des résolutions. Vous connaissez ce texte de Job, chapitre « À tes résolutions répondra le succès ». 22, il y a raison. Oui, c'est bien, ils sont bien, c'est vrai. À tes résolutions répondra le succès. Est-ce que, frères et sœurs, vous croyez que cet après-midi, Dieu peut vous parler et dire oui malgré l'épreuve ? Parce que vous savez, je vous assure, à l'époque, être pour une femme, être stérile, c'était vraiment une malédiction. Je me souviens, moi, dans ma famille, pendant 3 ans, on n'a pas eu d'enfant. Pendant 3 ans. Et une de mes sœurs qui écoutera la prédication, ne t'inquiète pas, hein, elle me disait, oui, nous, moi, je suis bénie parce que j'ai des enfants. Vous, si vous n'avez pas d'enfants, c'est qu'il doit y avoir un problème. Vous voyez, elle nous l'a dit, ça. Mais bon, je ne sais pas si elle était consciente de ce qu'elle disait. Mais voyez, c'est pourtant 4000 ans après. Mais pour vous dire, vous voyez que ça n'a pas beaucoup changé. On considère la stérilité comme une malédiction. Mes frères et sœurs, nous sommes tous dans les épreuves. D'une façon ou d'une autre, nous traversons tous les épreuves. Mais nous avons tous le pouvoir de décider et de dire, cet après-midi, Seigneur, ça fait 40 ans que ça dure. J'ai 40 ans. Il y a des gens, moi je vois des gens, ça fait 10 ans qu'ils viennent, ils n'ont pas avancé d'un poil. Ça fait 15 ans qu'ils viennent, ils n'ont pas fait un pas. Et puis tout d'un coup, il dit, voilà, j'ai décidé d'obéir à Dieu. J'ai décidé de faire aussi, comme Daniel, il a résolu dans son cœur. Rappelez-vous cette parole de Jésus à Pierre, que t'importe les autres, toi, suis-moi. Parce que si vous attendez que les autres soient d'accord avec vous, vous risquez d'attendre longtemps. Je crois qu'à un moment donné, il faut se prendre en main et dire, c'est une affaire entre Dieu et moi, je vais prendre la résolution d'obéir à Dieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cœur de Manoac et de sa femme. Il devait certainement prier, c'était l'attitude de tous les Hébreux à l'égard de la loi, mais Dieu a exaucé sa prière. Et je vous assure, mes frères et sœurs, si on est prêt à obéir, Dieu exaucera nos prières. Croyez-moi. Vous savez, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Nous défendons, oui, l'Église, oui, les pasteurs, oui, ceci, oui, le président, oui, le chat, le poisson rouge. Écoutez-moi. Non, mais il y a des gens, ils cherchent toujours, toujours une excuse. C'est pas vrai? C'est toujours la faute à quelqu'un. Mais quand quelqu'un est capable de dire, Seigneur, c'est entre toi et moi, je veux me tenir devant toi sérieusement, je peux vous dire que c'est Dieu qui bénit. Quoi que ce soit que les autres peuvent dire, quoi que ce soit que les autres peuvent penser, la bénédiction, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui bénit. Et nous le voyons dans ce cas de figure, il y avait dans le cœur de cet homme et dans le cœur de cette femme certainement une souffrance, 40 ans qu'ils étaient livrés entre les mains de l'ennemi. C'est long, hein? Peut-être que vous n'avez pas 40 ans, mais que toute votre vie déjà, vous n'avez vu qu'une famille qui est entre les mains de l'ennemi, vous avez vu qu'une ville, l'autre jour je lisais sur internet que Toulouse était la deuxième ville gay de France. Oui, ça fait peine, quoi. Pas gay, G.A.I., eux. Mes frères, est-ce que Dieu peut renverser les choses? Il cherche un homme, une femme, un couple, une famille, une église qui va dire, mais moi aussi je ne chercherai pas la joie dans le monde. Moi aussi je vais commencer à obéir maintenant. Je vais commencer à me poser la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez vu que lui aussi, ils ont fait une offrande. On a parlé mardi de Gédéon. Vous avez vu Gédéon qui était un petit peu en vrac lorsque le Seigneur s'est approché de lui? Mais de suite, il a offert un sacrifice. Personne ne lui a demandé. Il a offert un sacrifice. C'est l'image de quelqu'un qui dit, mais moi je te donne ma vie. Et puis après, le sacrifice, vous vous rappelez ce qu'il a fait, le brave Gédéon? Si vous étiez là mardi, vous vous rappelez ce qu'il a fait? Il a bâti un autel et il lui a donné comme nom l'éternel paix. Pourquoi? Eh bien parce que quand on est en obéissance avec Dieu, il nous donne la paix. Alléluia. C'est beau dans un monde perdu, enténébré, pervers, corrompu, d'avoir la paix. Est-ce que vous croyez qu'il y a une bénédiction plus grande? Non, il n'y en a pas. La plus grande bénédiction sur la terre, c'est dans ce monde enténébré, de vivre dans la paix. Et Gédéon, rien n'était réglé. Je peux vous dire que rien n'était réglé. Mais pour combattre le bon combat, je crois que la meilleure chose, c'est d'avoir la paix. C'est pour ça que cet après-midi, sachez que ce que Dieu a fait avec Gédéon, ce que Dieu a fait avec Manoac, il veut le faire avec vous ce soir. Il veut vous dire, voilà, ta parole elle va s'accomplir. Vous croyez que la parole de Dieu s'accomplira? Ne vous inquiétez pas, la parole de Dieu, elle s'accomplira. Ce que Dieu veut faire, il le fera. Il cherche des hommes et des femmes qui auront ce même cursus de dire, voilà, je vais le faire. Je ne suis pas bien, je suis peut-être jugé, ma famille me juge, l'Église me juge, parce que ceci ou parce que cela, mais croyez-moi, ce n'est pas ça qui empêchera Dieu de vous bénir. Et je voudrais terminer avec cette pensée de la logique, parce que vous savez, c'est bien le spirituel. Est-ce que c'est bien d'être spirituel? Est-ce que c'est bien? Ben oui. Tout nous pousse à être spirituel. Mais regardez Manoac, malgré son souci, malgré son désir, une foi vivante, une obéissance, de la consécration, de la reconnaissance, on pourrait multiplier le comportement de Manoac. À un moment donné, quand il réalise qu'il n'a pas affaire à un homme, mais qu'il a affaire au Seigneur, qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Vous voyez? Attends, moi je suis dans Daniel, je suis un peu loin. Ils ne se connaissaient pas, les braves. Alors, au verset au verset 22, il dit à sa femme, nous allons mourir. Oui, car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit, écoute, si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Et il ne nous aurait pas fait maintenant entendre chose pareille. C'est bien d'avoir une femme intelligente, non? Qui a du bon sens. Eh oui, vous voyez comme quoi on peut... On a besoin des autres. On a besoin d'une aide. La logique. Vous savez, l'obéissance, c'est bien. La reconnaissance, c'est bien. La foi, c'est bien. La consécration, c'est bien. Mais la logique, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas un homme de Dieu qui a dit « Accorde-moi du bon sens ». C'est quel homme de Dieu qui a dit ça? David. Dans le psaume 119, vous le lirez, c'est un homme de Dieu, c'est quelqu'un de spirituel. Et quand il prie, il dit « Donne-moi du bon sens ». Dieu dit à Timothée par Paul « Le Seigneur te donnera de l'intelligence ». Comme quoi, voyez, on peut avoir de la logique, du bon sens, de l'intelligence. Et Manoac, lui, il se rend compte que l'affaire est beaucoup plus sérieuse que ce qu'il pense. Il a affaire à l'ange de l'Éternel, il n'a pas affaire à un homme. Nous allons mourir. Parce que bon, la Bible dit que celui qui voit Dieu, il va mourir. Il n'a pas compris que c'était une théophanie, une christophanie. Heureusement, parce que s'il avait vu Dieu, laissez-moi vous dire qu'il serait mort depuis longtemps. Sa femme lui répondit non. Si le Seigneur avait voulu nous faire mourir, il ne nous aurait pas fait des promesses. Il ne nous aurait pas dit ceci, il ne nous aurait pas fait cela. Mes frères et sœurs, si le Seigneur nous fait des promesses, si nous aussi, on est logique. Si c'est la volonté du Seigneur, c'est ce que je viens de vous dire. Vous pouvez bénir Dieu. Et dire, mais Seigneur, tu vois, cet après-midi, je suis venu dans ta maison. Ça fait 10 ans, 12 ans, 20 ans, 40 ans. Que je me traîne des casseroles pas possibles, que je suis là, influencé par ce que disent les autres, influencé par ma famille, influencé par mon passé, influencé par la malédiction des autres, alors que la bénédiction, est-ce qu'elle existe, la bénédiction du Seigneur? Et comment? Alors, ayons un peu de logique. Seigneur, si tu nous parles de promesses, si tu nous parles que tu veux faire quelque chose, c'est que vraiment, tu cherches quelqu'un. Tu cherches une église. Et moi, je crois que dans l'Assemblée, nous pouvons tout faire pour que le Saint-Esprit se manifeste, comme on l'a vu ce matin, pour que rien n'empêche le Seigneur de se manifester au milieu de nous, que sa parole soit honorée, afin que, comme dans les églises dont on a parlé ce matin, le chandelier brille vraiment. Qu'il y ait des petites loupiottes partout dans l'église. Vous êtes d'accord? Hein, et que nous soyons des sources de bénédiction. Soyons logiques, soyons obéissants, soyons consacrés, ayons une véritable foi, ce désir d'obéir jusqu'à ce que Dieu agisse. Que faudra-t-il faire à l'égard de l'enfant? Quand il va naître, avant qu'il naisse, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous êtes prêts à dire au Seigneur cet après-midi, oui, je vais obéir jusqu'à la bénédiction? Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais si Dieu me bénit, je le servirai. On l'entend ça, mais ça, je l'ai entendu. Écoutez, si Dieu me guérit, je me convertirai. Vous croyez que c'est une bonne attitude, ça? Enfin, on n'a pas jugé, mais je ne sais pas, ça, c'est, on est loin de Manoac. Seigneur, tu me guéris? Tu ne me guéris pas? Ce n'est pas égal. Moi, je t'obéirai. Ça, ça plaît à Dieu. Seigneur, tu me prêtes vie? Tu me donnes 20 ans de vie de plus? Ben, c'est bien. Tu me reprends bientôt? Ben, c'est pareil. C'est ça qui plaît à Dieu. Seigneur, tu vas me bénir, tu vas m'accorder de grandes bénédictions, c'est bien. Tu ne me béniras pas, c'est pareil, je t'obéirai quand même. C'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est pas, oh Seigneur, tu m'as comblé. Oh, tu m'as comblé, le patron m'a augmenté, oh Seigneur, je me mets à genoux, mon Dieu, merci. Merci, oh c'est formidable, je t'avais pris. Ça, c'est pas l'adoration, ça. L'adoration, c'est dire, Seigneur, tu es Dieu. Et je te glorifie. Vous savez, moi, je l'ai vécu quand j'ai fait l'AVC. Vous savez, j'ai failli mourir, je l'ai senti. Eh bien, je peux vous dire, Dieu sait que ça n'a rien changé et que je l'ai loué. Je dis, Seigneur, tu me reprends, c'est très bien. Tu ne me reprends pas, c'est bien. Mais Seigneur, que ton nom soit béni. Dieu a vu, et moi, je l'ai expérimenté. Et je vous assure que ce que je prêche, je peux dire que je l'ai vécu. Parce que je suis sûr que c'est ça que Dieu veut. Qu'on arrive à ce stade, comme Manoac, Seigneur, que faut-il faire maintenant? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui est capable de dire dans son cœur, oui, je vais le faire. Il y a des gens, oui, ils continuent. Ils disent, oui, je suis d'accord, c'est bien la parole de Dieu, vos prédications, etc. D'accord. Mais est-ce que je vais obéir à Dieu? Seigneur, me parlez cet après-midi de sanctification. Oui ou non? Est-ce que je vais me sanctifier?
Le Seigneur me parle d'obéissance. C'est bien, c'est bien de mettre en avant l'obéissance de Manoac et de sa femme. Est-ce que je vais obéir? Vous savez, mardi, j'ai donné une parole, je sais qu'il me fallait la donner. C'est pour quelqu'un, pour qu'il se lève tôt le matin. Parce que je sais que Dieu m'a montré plusieurs personnes qui ne peuvent pas obéir à Dieu parce qu'elles restent devant la télé ou devant Internet jusqu'à minuit, 1h du matin. Ça fait que le matin, elles ne peuvent pas se lever. Et à cause de cela, elles passent à côté de la bénédiction de Dieu. Voilà. Qui va se mettre à obéir et dire « Seigneur, je vais me débarrasser de ces idoles pour me tenir devant ta face ?» Voilà, c'est ça que Dieu demande. C'est des choses qui paraissent anodines, mais c'est comme ça que le Seigneur agit dans la vie de quelqu'un. Alors, on va fermer les yeux quelques instants. Et on va lui dire, mais Seigneur, c'est pas, je veux pas faire une étude biblique de plus sur la vie de Gédéon, c'est merveilleux, de Manoac. Oh, tout ce que j'ai découvert cet après-midi, mais c'est merveilleux. Non, c'est pas ça. D'ailleurs, le merveilleux, c'est pas la Bible, c'est Jésus le merveilleux. C'est pas la prédication plutôt, c'est Jésus le merveilleux. Cet après-midi, Dieu voulait parler à quelqu'un. Dieu sait où nous en sommes. Dieu sait s'il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Peut-être il y a quelqu'un qui a 40 ans, qui galère. Eh bien, vous avez vu, comme moi, que cette galère, elle peut s'arrêter. Elle peut s'arrêter d'un moment à l'autre. Quand vous regardez ces textes, vous vous rendez compte que d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, les gens sont sortis de la peur, de la crainte, de la malédiction. Et cet après-midi, je voudrais prier, car si Dieu m'a mis à cœur ce texte, il est fort probable que quelqu'un puisse dire, mais moi aussi, je vais m'attaquer à ces choses. Je vais obéir jusqu'à ce que Dieu me bénisse. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon pour toutes les fois où j'ai dit, si tu me bénis, je me ferai baptiser. Si tu me bénis, je prendrai le baptême. Si tu me bénis, je te donnerai la dîme. Écoutez, si vous avez parlé comme ça, demandez-lui pardon. Demandez-lui pardon. Et dites-vous, je vais, oui, t'obéir, Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Ça s'adresse à tous les hommes. Même si vous n'êtes pas baptisé, ça s'adresse à vous. Il n'est pas dit, les chrétiens adoreront Dieu. Cette parole, Dieu l'adresse à tous les hommes. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Alors prions, mes frères et sœurs, car Dieu connaît vos cœurs. Il a vu Manoac, il a vu cette femme qui était pleine de logique. En tous les cas, elle était prête à obtenir la bénédiction. Est-ce qu'il y a une femme cet après-midi? Un homme, un jeune homme, une jeune fille? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit « Oui, j'en ai marre, ça fait trop longtemps que ça dure. Il faut que je me sanctifie, que j'obéis, que je ne cherche plus la joie dans le monde. Il faut que je cherche la joie. » Comment la chanter? Dans la présence de Dieu. Notre Père, notre Dieu, tu as dit dans ta parole que les hommes sont inexcusables. Rien que par la création. Alors Seigneur, nous qui pouvons plonger nos regards dans ta parole, combien nous sommes heureux de savoir ce que tu peux faire lorsque tu trouves des hommes et des femmes qui honorent ta parole, qui obéissent à ta parole. Tu nous vois cet après-midi, nous sommes sous ton regard. Tu voyais Manoac et son épouse. Tu nous vois, à nous, qui sommes là dans ce petit temple. Seigneur, s'il te plaît, que ta volonté soit faite. Donne cet esprit de foi, d'obéissance, de sanctification, de consécration, de reconnaissance, de logique à chacun d'entre nous, afin que nous puissions, même si les décennies ont passé, amener la bénédiction sur notre ville. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Oui, que ta volonté soit faite et que ton nom soit béni. Merci Seigneur Jésus. Amen.